Alors, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter la conférence du professeur Rossi. Pour ceux qui ne le savent pas ou ne suivent pas ce cours, elle fait partie d'un cycle de conférences données dans le cadre du cours d'histoire sur les normes et formes de la mondialisation culturelle. Plus en particulier, cette conférence qui est intitulée « Des cultures chamaniques au chamanisme globalisé » est la dernière des premières conférences données dans ce cours dédiée à la thématique de la mondialisation des pratiques religieuses ou plus en général des pratiques spirituelles, on peut dire. Donc, je vais d'abord vous présenter le conférencier, car ça nous permettra d'introduire plus facilement la thématique de la conférence. Le professeur Rossi est docteur en sociologie et anthropologie ici à l'Université de Lausanne. Il a fait une partie de ses études en Mexico, où l'anthropologie était conçue plutôt comme une anthropologie au service des problèmes sociaux. C'est là aussi vraiment qu'il s'est intéressé plus à l'anthropologie. Et toujours en Amérique latine, il a pu faire une expérience de pratique de terrain près d'une population amérindienne de la Sierra Madre, les Ushol. Expérience qui a duré en tout environ 2 années. Donc on voit vraiment une immersion dans le terrain. Et on peut dire que cette expérience, Rossi l'a définie une expérience enrichissante, mais en même temps une expérience difficile. Cette expérience est présentée dans un article qu'il nous a conseillé, dans un chapitre d'un livre plus en particulier, le chapitre intitulé « Soigné par la parole sacrée, réflexivité et chamanisme amérindien ». Donc, en tant qu'anthropologue, Rossi s'est intéressé et spécialisé au domaine plus particulier de l'anthropologie médicale. On verra en effet par la suite avec la présentation comment le chamanisme, en effet, est à la fois un système intellectuel, un système religieux, et à la fois, entre autres, aussi une technique de culte, une sorte de pratique de soins. Et donc on a là le double aspect, d'un côté l'aspect, on peut dire, intellectuel, religieux, le fait, c'est une façon de donner de sens aux événements, et de l'autre côté l'aspect médical. Et là, vraiment Rossi s'est intéressé à ça, c'est centré sur cet aspect-là, l'aspect médical, en considérant la quête de santé en tant que phénomène culturel, et s'intéresse en plus, en général, aux logiques des systèmes médicaux dans un contexte de mondialisation. Donc on voit là le lien qu'on peut faire avec ce cours, et on voit là la pertinence de ce que nous apporter pour ce cours. Et on peut encore dire que au niveau professionnel, il travaille ici à l'Université de Lausanne, il travaille à l'Institut de sociologie et anthropologie, et travaille aussi aux polycliniques médicales universitaires, et toujours pour se centrer sur cet aspect médical, on peut dire entre autres, pour ne pas énumérer toutes les choses, qu'il est membre fondateur de la fondation LING, médecine, psychologie et culture. Et donc, après ce bref aperçu que nous permet un peu d'entrer dans le thème de la présentation, je vais passer la parole à Sabrina, qui va nous introduire la conférence en partant du regard de l'histoire globale. Merci.
Alors, à l'image de notre conférencier qui porte donc une double casquette, soit celle de l'anthropologue et du sociologue,
et de la discipline anthropologique qui aujourd'hui évolue et s'allie de plus en plus à la sociologie, nous nous rendons compte que pour avoir une analyse globale, il faut avoir un regard interdisciplinaire. Celui de l'anthropologue qui étudie les sociétés sur place, dans notre cas les Huichols de la Sierra Madre, celui du sociologue qui étudiera les courants en Occident, à l'image de Christian Gazarian, alors là je précise, lui il est directeur de l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel, mais dans son texte sur réflexion sur les rapports entre le corps, la conscience et l'esprit dans les représentations et pratiques néo-chamaniques que nous avons lu donc, pour préparer cette conférence, il y a un regard qui est plus socio-anthropologique sur les sociétés, sur les courants New Age à San Francisco. Et finalement, il y a aussi le regard de l'historien qui va regarder justement le processus, comme nous le faisons dans ce cours, qui regarde comment, historiquement, nous sommes passés justement de quelque chose de local à quelque chose de global. Justement, dans ce procédé qu'on appelle donc le jeu des échelles, qui va nous permettre de passer de quelque chose qui est défini dans un secteur géographique, culturel, comment ces pratiques peuvent toucher, on va dire, à toutes ou presque les parties du globe. Donc, dans ce cas, les rites et pratiques chamaniques chez les Huichols vont s'ouvrir à une thématique globale qui ne va pas exactement être le rite et la pratique chamanique en tant que, comme elle est pratiquée chez les Huichols, reproduite ici où on aura un passage, comme on l'a vu par exemple avec le yoga, il y a eu une acquisition de pratiques, etc. Ici, on va vraiment avoir une autre vision, vous l'entendrez justement dans la conférence, qui serait en fait de partir d'une pratique sacrée pour arriver à une pratique uniformalisée qui n'est qu'un simulacre du sacré, qui était justement le titre de l'article que vous avez dû lire, et qui montre bien que finalement, on n'a pas tout peut passer, et ça je l'expliquerai après dans les normes et les formes, justement la circulation justement de ces normes et de ces formes. Donc, pour arriver à ce passage du local au global, il est nécessaire de prendre en compte le rôle des acteurs, donc en premier lieu, le rôle de l'anthropologue qui, par son expérience de terrain, peut revenir en Occident avec justement un savoir, par le biais de publications, le faire connaître, par le biais justement de conférences, qui va montrer comment vivent les autochtones, c'est-à-dire dans ce cas les Huichols, et eux-mêmes, le rôle de ces Huichols qui vont devoir commencer à modifier leur façon de vivre à cause, on va dire, des nouveaux rapports économiques qui se produisent, notamment au Mexique, à cause de l'abolition du troc, ils vont devoir commencer à aller chercher le travail, et là je ne veux pas empiéter sur ce que vous allez dire, donc je me limite à là. Et donc il y a une modification de leur vie, ils vont aussi amener leur culture par le biais de voyages, ils vont venir ici, ben, notamment à Genève, etc. Et aussi le rôle des acteurs occidentaux qui désirent pratiquer aujourd'hui du chamanisme comme d'autres pratiques, comme nous l'avions vu, le yoga, mais aussi la médecine ayurvédique ou la médecine tibétaine, toujours dans les mêmes schémas, qui serait, selon ce que dit Gazarian, en fait, une nouvelle quête de sens, une recherche de soi, se sortir de ces normes, etc. Et ce sont ces acteurs occidentaux qui vont aller rechercher, en fait, les pratiques, que ce soit dans la Sierra Madre, pour, en ce qui nous concerne, ou ailleurs. Donc, on voit par là qu'il y a vraiment tout un, comment on va dire, un pod qui se met en forme pour pouvoir avoir ce passage. Et ce passage qui finalement sera le passage des normes et des formes, cette circulation. Cette circulation qui ne serait pas possible en fait sans ce que je viens d'expliquer. La circulation dans notre cas, quand on parle de normes et de formes, on peut voir que ça va surtout être une circulation de formes. En fait, la croyance, tout le côté religieux du chamanisme dans la Sierra Madre aura des difficultés à s'implanter ici, notamment parce qu'on n'a pas le même système culturel, on n'est pas dans une représentation holiste en tant que communautaire, nous venons d'une société individualiste, nous allons, comme je l'ai dit, comme le dit Gazarian surtout, rechercher une nouvelle quête d'un sens pour nous-mêmes. Donc on ne pourra prendre on va pouvoir prendre de leur rite uniquement la pratique. On ne pourra pas reprendre tout ce qui est leur rite. Et justement, pour l'exemple, si les Wishol sont un peuple qui utilise des substances psychotropes, les Occidentaux qui pratiquent le chamanisme vont aussi utiliser les substances psychotropes, donc on a la pratique qui vient, mais on n'aura pas tout ce qui est de la culture, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser de la même manière. Et cela, ce sera expliqué justement dans la conférence. Donc, cette circulation, on peut dire, et c'est la théorie que défend M. Rossi, que la circulation de ces formes n'est pas une circulation à proprement parler, c'est-à-dire avec un départ, c'est quelque chose de circulaire, avec un départ, une réappropriation et un retour. Ça va être une circulation qui ne sera pas symétrique, et pour cela, je laisse la parole à Diego.
Oui, en effet, le point de vue soutenu dans cette conférence sera celui du rapport asymétrique entre l'Occident et les cultures autochtones où l'Occident va chercher ses pratiques. On le sait, il existe deux visions en histoire globale. Une qu'on a pu voir notamment de la conférence de la semaine passée sur le yoga où l'échange de normes et des formes se fait de façon à peu près égalitaire, où le yoga, comme on a pu le voir, se transforme en Occident et retourne en Inde, où il est accepté dans sa nouvelle forme. Et une deuxième vision, qui est celle qu'on verra aujourd'hui, où l'Occident semble englober ces pratiques indigènes en les utilisant à son propre gré, mais sans qu'il y ait vraiment un retour chez eux. Ceci vient, comme on a pu le voir, d'une quête de sens. En effet, en Occident, aujourd'hui, on peut voir une émergence d'intérêt vers l'ésotérisme, l'occultisme, et des nouvelles pratiques, comme le néo-chamanisme, qui sont vides des normes d'origine, mais qui conservent les formes du rituel. Ces échanges inégaux se font tout autant sur un plan socioculturel qu'économique et politique, car l'Occident s'impose. L'Occident, dans cette vision, s'impose malgré la civilisation indigène. Et pour faire un exemple rapide, si avant les échanges chez eux se faisaient à travers le troc, à travers l'échange de matériel, aujourd'hui ils sont obligés de se procurer de l'argent, car l'Occident avance, et si par exemple ils devaient s'acheter ne serait-ce qu'un animal pour un rituel, un taureau, ils ne pourraient plus l'échanger. Ils ont besoin donc d'argent, de monnaie, qui ne peut se faire qu'en s'adaptant à l'Occident. Dans ce sens, le rituel devient une véritable marchandise que l'Occident tend à prendre pour emmener chez lui. Il s'agit, comme on peut le lire dans le texte de Monsieur Rossi, le simulacre du chamanisme ou le sacré reconverti, d'un égocentrisme occidental qui tend à ramener le vécu d'autrui sur ses propres représentations. Donc la quête de sens, dont un collègue nous a parlé tout à l'heure, pousse l'Occident à aller chercher des éléments qui pourraient s'adapter dans sa propre culture pour le ramener, modifier, dans une quête de non seulement de normes, mais des valeurs aussi, dans une société qui tend en Occident à les perdre. Ce néo-chamanisme qui arrive ici est donc modifié, n'est pas à l'état pur. Je ne vais pas entrer dans les détails, car évidemment ce sera l'objet de la conférence. Mais il n'y a pas un véritable retour chez eux. En effet, on sait que les Occidentaux n'ont pas droit de rentrer dans les endroits sacrés de la Sierra Madre, et que les rituels ne sont pas tout à fait les mêmes, car ils tendent chez eux à conserver une certaine tradition. Or, le passage entre la tradition et le néo-chamanisme occidental sera évidemment l'objet de la conférence. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à M. Rossi, qui va nous expliquer le processus qui font ce mouvement.
Merci beaucoup à tous les trois. Dans des cultures qui sont très éloignées mentalement et géographiquement de la nôtre. C'est un voyage, si vous voulez, qui a comme objectif de vous montrer aussi comment en anthropologie on se positionne face à la grande problématique de la diversité culturelle et quels instruments épistémologiques, conceptuels, théoriques, mais surtout méthodologiques, on se donne aujourd'hui pour pouvoir appréhender l'altérité et pour pouvoir la mettre en perspective selon un discours scientifique. Pour cela, je vous propose donc un exposé en trois parties. Une première partie où tout d'abord je vous donnerai quelques repères autour de cette notion de chamanisme, repères naturellement rattachés à la littérature anthropologique. Et dans la deuxième partie, je vous proposerai un voyage un peu plus conséquent au sein de la culture Huichol qui était mentionnée tout à l'heure, pour vous montrer quel est l'écart entre nos propres référentiels historiques et culturels et ce que cette culture chamanique peut exprimer. Je souligne tout d'abord que la culture de Huichol a toujours fasciné la production scientifique en anthropologie, parce que c'est une des rares cultures mésoaméricaines et amérindiennes qui a sauvegardé, au dire des historiens, des ethno-historiens et des anthropologues, pas mal de savoirs de l'époque préhispanique, qu'elle a pu renouveler et adapter jusqu'à pratiquement la deuxième moitié du XXe siècle, moment à partir duquel la région qu'ils habitent et la société qu'elle constitue a été investie de manière conséquente par les anthropologues, notamment nord-américains. Mais donc c'est une culture emblématique, c'est ça que je voulais vous dire, c'est une culture emblématique qui en même temps est très révélatrice du rapport entre l'anthropologie et ses sociétés amérindiennes, et qui nous permet aussi de mettre en perspective une analyse de cette relation entre nous occidentaux, nous scientifiques, et l'altérité chamanique amérindienne. Ce sera donc la première partie. Dans une deuxième partie, j'aimerais bien vous montrer autour de quoi on travaille en anthropologie dès qu'on s'intéresse aux sociétés chamanistes, ou plus particulièrement les sociétés amérindiennes aujourd'hui. Pourquoi ? Ben, je crois que le séminaire que vous êtes en train de construire progressivement en est l'épreuve évidente. Sous l'effet du processus de mondialisation, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas une seule société ou culture qui se renouvelle ou change avec une vitesse relativement impressionnante. Ça veut dire que des styles de vie qui probablement se renouvelaient gentiment et lentement dans l'histoire, au cours de ces 20 dernières années, ont été obligés de se rapporter aux pressions globales induites par la mondialisation. Cela signifie quoi? Que dans une perspective anthropologique, on ne peut que constater aujourd'hui que la mondialisation entre dans l'intimité de chaque culture et oblige chaque culture non plus à vivre de manière repliée, mais à se confronter avec le monde extérieur de manière tout à fait explicite et évidente, et de se rapporter à ce monde extérieur. Vous verrez donc à travers quelques exemples tout à fait concrets comment ces cultures, désormais, on ne peut plus les considérer comme des univers culturels repliés sur eux-mêmes. Comment l'anthropologue ne peut plus travailler forcément à travers des approches désormais classiques qu'on appelait monographie, aller dans une culture circonscrite pour essayer de comprendre au mieux les tenants et les aboutissants de ce qu'elle exprime, mais que nous avons aussi l'obligation, si vous voulez, scientifique d'une part et évidemment méthodologique, de complexifier la mise en perspective de la relation entre local et global. Cela est valable chez nous, cela est valable, vous l'aurez compris, aussi chez les cultures chamaniques d'Amérique latine, notamment. Et puis une troisième partie, si vous voulez, porte sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir, suite au processus de mondialisation, non seulement il y a un renouvellement interne, mais il y a une globalisation, une circulation, si vous voulez, de savoirs issus des cultures chamaniques, et qui arrive notamment en Occident. Je m'arrêterai là, parce que sachez qu'une des grandes intérêts scientifiques actuels, c'est par exemple voir comment le chamanisme amérindien interfère en Asie ou en Afrique. Ce sont des choses qu'on commence à répertorier, donc ça veut dire que vraiment elles circulent partout. Mes propos là aujourd'hui vont se restreindre à la réception occidentale du chamanisme sous forme des rituels qu'on a définis tout à l'heure comme néo-chamaniques. Ce qui m'intéresserait vous montrer, ça a été déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est prendre acte qu'au fond, le dialogue, entre guillemets, interculturel entre notre culture que nous représentons comme acteurs sociaux et les autres cultures est relativement compliqué. Et que dans ce dialogue entre Occident et société amérindienne, on constate plus qu'autre chose ce qui a été défini à juste titre tout à l'heure comme une relation asymétrique. Parce que, bon, ma posture est peut-être un peu trop profilée, mais je le fais aussi pour des raisons pédagogiques et pour stimuler la discussion avec vous tout à l'heure. Mais je crois vraiment qu'en Occident, on souffre d'une boulimie culturelle un peu compulsive, qui vise à récupérer tout ce qui peut être utile pour construire nos propres identités dans nos sociétés. Et dans cette perspective, ce que tout à l'heure a été défini comme la quête de sens individuel, c'est justement récupérer le chamanisme à la mesure de ce que nous voulons qu'il soit pour pouvoir nous construire. Donc là, effectivement, on est confronté à un décalage en termes de dialogue et de compréhension réciproque qui suscite évidemment un débat. Voilà donc, si vous voulez, dans les grandes lignes, les trois étapes de l'exposé que je vous propose. Bien évidemment, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment pour poser des questions, lancer un débat ponctuel, etc. Ok. Alors, première chose que je voulais vous dire, d'où vient le terme chamanisme? On l'utilise comme ça facilement, mais vous le savez mieux que moi. Une première réflexion à amener d'un point de vue scientifique, c'est cette notion qu'on utilise, elle vient d'où? Elle est vernaculaire, donc elle est rattachée aux cultures d'origine, ça a été créé par l'Occident. En réalité, le terme chamanisme, le terme chaman, ont été créés par la science anthropologique au cours du 19e siècle, et plus particulièrement été formalisés en début du 21e siècle. L'étymologie du terme nous renvoie à la langue tungouse, donc de la Sibérie, de la Russie actuelle. En tungouse, chaman signifie bon, saut, sauter systématiquement. Ou encore, et là c'est les querelles entre spécialistes, je n'ai pas la compétence pour trancher, bien évidemment, peut-être Maya Burger aurait pu le faire, mais l'autre terme de référence est saman, sanskrit, qui signifie chanter. Donc ça veut dire quoi? On s'est référé donc à deux langues vernaculaires, on a extrapolé cette notion et on l'a transformée en Occident. Tout d'abord pour définir le chaman, le premier intérêt évidemment c'était autour de ces personnages publiquement légitimés et reconnus qui conduisaient des rituels relativement bizarres aux yeux des Occidentaux. Et deuxièmement, l'extrapolation pour généraliser, si vous voulez, un substantif qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, étymologiquement, le mot a cette origine. Et sachez qu'aujourd'hui, le chamanisme, en termes de perspective socio-anthropologique, nous le considérons comme un phénomène universel. Pourquoi ? Parce que dans le temps et dans l'espace, donc selon une perspective historique et anthropologique, nous savons que le chamanisme s'est exprimé dans tous les continents présents sur cette planète, à savoir plus particulièrement dans la Russie asiatique, dans le Tibet, dans le Népal, où ils sont présents encore aujourd'hui, des expressions culturelles chamaniques. En Europe, on pense plus particulièrement à la Laponie et aux cultures lapones, mais c'est déjà du passé. Au territoire amérindien, du nord au sud de l'Amérique, mais surtout au sud du Rio Bravo, donc je vous parle de l'Amérique latine, plus spécifiquement. En Chine, en Corée, au Japon, au Pakistan, en Inde, en Australie et en Afrique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes confrontés, si vous voulez, à un phénomène culturel universel, qui a eu des variations naturellement en fonction de l'époque historique à laquelle on s'adonnait. Et comment on peut le définir de prime abord ? Bon, il y a différentes manières, évidemment, d'entrer dans la question. Je ne veux pas du tout être exhaustif, c'est juste pour vous donner quelques repères. Mais disons qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'anthropologie sociale et culturelle, on considère le chamanisme comme un objet d'enquête scientifique dont l'analyse porte sur la manière dont des êtres humains, femmes et hommes, dépourvus de nos sciences, donc de nos référentiels scientifiques, ont élaboré un système intellectuel et religieux cohérent pour expliquer l'ordre des choses et les événements qui les perturbent. Ça veut dire quoi ? Qu'une première manière de définir le chamanisme, c'est des systèmes culturels cohérents, cohérents et qui se détachent radicalement d'une perspective scientifique d'appréhension du réel et d'appréhension de l'être humain. Donc c'est ça la première différence. Ensuite, si vous voulez, ce qui me semble intéressant, c'est que le chamanisme, vous l'aurez compris, c'est un phénomène globalisant. Et c'est un phénomène qui se présente en même temps comme le produit d'une vision particulière du monde. Donc là, on est dans le domaine de la connaissance. C'est un système culturel qui produit de la connaissance pour appréhender et comprendre le monde et pour appréhender naturellement et comprendre le statut de l'être humain. Mais il n'est pas seulement un système qui permet d'appréhender une connaissance, c'est aussi un système, vous pouvez vous en douter parce que chaque culture fonctionne sur ce registre-là, c'est aussi un système qui induit des expériences particulières dans le monde. Donc, qu'en fonction d'une connaissance particulière du monde, produit un vécu humain tout à fait spécifique. Donc, nous en sommes, si vous voulez, à considérer le chamanisme comme un système culturel, religieux, intellectuel, à part entière, comme ça a été du reste évoqué tout à l'heure. J'aimerais vous présenter cette phrase maintenant de Robert Damaillon, juste pour vous sensibiliser, juste pour vous sensibiliser, si j'arrive encore, c'est très compliqué sans miroir. Voilà. Au fait que le rapport entre la science anthropologique, l'Occident en général, et les sociétés chamaniques a été, comment vous dire, très complexe dans l'histoire. Robert Damaillon nous dit que le chamanisme a eu un sort très variable et a toujours été fragmenté, rattaché de près ou de loin aux systèmes les plus divers. Qu'on ait pu voir dans le chamanisme aussi bien un vague ensemble de pratiques marginales qu'une technique mystique, une forme de psychanalyse, un culte thérapeutique, l'envers ou la frange de toute grande religion, a quelque chose de provocant. Cette phrase nous renvoie à quoi ? Ben, nous renvoie, si vous voulez, à la production historique qui a mis en relation, à partir de la fin du XIXe siècle, la science anthropologique, notamment l'ethnologie, l'ethnographie, et ses sociétés amérindiennes. Parce que si on veut regarder vraiment dans les grandes lignes, quels sont les repères historiques qui nous permettent d'appréhender progressivement ce qu'est le chamanisme, nous ne devons pas oublier que ce regard historique, mais je suis bien placé ici pour renforcer cette idée, ce regard historique nous dit aussi beaucoup sur la manière à travers laquelle les Occidentaux apprenaient ces cultures. Donc il ne s'agit pas seulement de poser un regard sur les autres et progressivement élargir notre compréhension pour saisir la complexité de ce qu'ils expriment, Mais à travers l'histoire, naturellement, on a aussi la possibilité d'analyser les particularités de l'Occident envers ces cultures. Et pourquoi je vous le dis ? Parce que, par exemple, deux registres d'entendement scientifique, donc de manière d'interpréter et d'analyser le chamanisme, sont fortement liés à des prérogatives culturelles propres à l'Occident. En début du XXe siècle, Renck, un des premiers anthropologues qui étudiait le chamanisme, nous dit « Le chaman est un simulateur au service du diable, ou encore un malade mental. » Donc c'est une production scientifique. Et il ouvre la voie, si vous voulez, à deux phénomènes d'analyse qui ont accompagné pendant toute la première moitié du XXe siècle l'Occident, à savoir que le chamanisme, pour être saisi, doit être forcément comparé à ce qui est la religion, et notamment les religions instituées, monothéistes, liées à des paroles révélées, et c'est par rapport à ces religions qu'on définit le chamanisme, ou encore le chamanisme était comparé à cette frontière terriblement sensible que nous instaurons entre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans le cadre de notre société. Et plus particulièrement, il a accompagné l'émergence aussi de la science psychologique dans le cadre de l'Occident. Le chamanisme a été vu vraiment comme un complexe culturel qui engendrait des problématiques d'ordre psychopathologique. À savoir, ces gens-là sont à côté de la plaque. Ils assument des comportements en termes collectifs qui nous font passer vraiment à des dérives en termes de santé mentale évidentes. Donc l'histoire, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que pendant une bonne demi-siècle, en quelque sorte, la manière de comprendre qu'ils étaient relevait de la comparaison par rapport à qui nous sommes. L'anthropologie a beaucoup fonctionné là-dessus, jusqu'à, si vous voulez, le saut qualitatif qu'en termes historiques nous devons beaucoup, bon, d'une part à Malinowski, mais surtout à Claude Lévi-Strauss. Il a été le premier à travers le structuralisme à montrer, si vous voulez, la cohérence et la dignité des connaissances propres aux sociétés amérindiennes. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, qui nous a permis de faire un bond qualitatif impressionnant, et qui, à travers la rigueur scientifique d'un système issu de la linguistique, comme vous savez, il a pu réordonner, à travers un regard comparatif, le savoir amérindien pour montrer toute la cohérence et toute la spécificité que ce savoir véhiculait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, heureusement, on commençait à s'éloigner un tout petit peu de cette prétention évolutionniste propre à l'Occident, à savoir celle de considérer les autres cultures comme des avatars imparfaits de notre propre perfection occidentale. À partir de ce moment-là, et j'en terminerai, si vous voulez, avec la perspective historique, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, tout dépend du moment historique dans lequel vous produisez une connaissance, en quelque sorte. À partir des années 60, deux grandes écoles pour appréhender le chamanisme. Une école qui se référait beaucoup à l'histoire de religion, de matrice éminemment anglo-saxonne et plus particulièrement américaine. Une école donc qui s'est beaucoup intéressée, si vous voulez, au chamanisme comme expérience de l'humain, en quelque sorte, sous des formes collectives, mais surtout sous des formes individuelles. Immense production scientifique de ce côté-là. Et première dérive inéluctable, probablement plusieurs d'entre vous connaissent Carlos Castaneda, au moins deux noms, et bien cette idée de mettre en perspective les problématiques chamaniques à travers un rituel d'initiation qui relie un maître en disciple, rentre vraiment dans la perspective propre aux États-Unis, anglo-saxonne, héritée par les gens compétents dans le domaine, par tous les œuvres de Mircea Eliade et donc des courants d'histoire des religions. En Europe, par contre, une autre sensibilité, une sensibilité que, pour l'instant, je vais vous dévoiler en partant exclusivement de la France, mais la France est beaucoup plus portée, si vous voulez, sur les questions sociales et sur les enjeux sociaux du chamanisme. Pourquoi cette prérogative typiquement francophone ? Eh bien, la France, en anthropologie, investit de manière conséquente l'Afrique. L'anthropologie sociale et culturelle a été créée en Afrique, et c'est en partant justement de problématiques d'ordre collectif et sociétal qu'on a commencé à mettre en perspective ces cultures. Donc vous voyez déjà là que pour un helvétique, par exemple, pour quelqu'un qui étudie en Suisse, bien évidemment, la problématique des courants théoriques et du lieu où on étudie est déjà prioritaire pour appréhender d'une certaine manière ces cultures. Si vous êtes aux États-Unis, vous prenez une direction. Si vous êtes en France, vous en prenez un deux. Et réjouissez vous parce que du moment qu'on est en Suisse, on peut jongler tranquillement avec les deux et créer une troisième voie entre expérience et enjeu collectif. Donc, cette phrase d'Amayon nous montre quoi? Que le chamanisme, au fond, a toujours été considéré comme une sorte de trou noir de la civilisation occidentale et qu'un miroir, bien évidemment, il nous renvoie de plein gré à qui nous sommes et à comment nous fonctionnons. Nous en sommes où aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez, nous vivons dans le cadre de l'anthropologie contemporaine un renouvellement qui me semble très important et qui porte le nom de renouveau réflexif. À savoir que nous sommes de plus en plus conscients que tout ce que nous disons sur les autres dépend bien évidemment du contexte à partir duquel nous évoquons un discours, nous le construisons, nous le formatons, nous le textualisons, et que tout cela dépend bien évidemment aussi de l'époque historique dans laquelle on se greffe. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance, pour les anthropologues qui s'intéressent à ces questions-là, d'avoir une vision relativement claire du parcours historique et de l'interaction entre sciences anthropologiques et société amérindienne, la nécessité de prendre du recul et l'obligeance, si vous voulez, de renouveler aussi en termes de méthodologie. Cela signifie en quelque sorte qu'aujourd'hui nous prêtons une attention particulière à comment nous construisons le savoir sur autrui. Alors ce savoir, bien évidemment, repose, là la situation est très complexe, mais éventuellement je retourne très volontiers lors des débats de tout à l'heure, la situation est complexe, mais disons que en anthropologie, nous sommes de plus en plus convaincus que notre manière de travailler repose tout d'abord sur les tenants et les aboutissants d'une science relationnelle. Nous entrons en interaction avec des êtres humains qui appartiennent à d'autres cultures, et c'est justement autour de la qualité des interactions humaines que nous pouvons construire et établir avec les autres que nous nous donnons ou nous octroyons la légitimité pour produire des données, donc pour produire de la connaissance et pour produire un discours scientifique. Ça veut dire quoi? Que appréhender ces sociétés amérindiennes, c'est moins constituer un objet d'enquête en tant que tel que partir sur une réflexion d'ordre épistémologique et philosophique, mais en même temps éthique, sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous occidentaux aujourd'hui interagir avec des gens qui appartiennent aux sociétés amérindiennes. Et non seulement qu'est-ce que signifie interagir avec eux, mais qu'est-ce que signifie interagir avec eux dans un contexte historique bien particulier, celui de la mondialisation, où tout circule de manière forte accentuée, et savoir, expérience et personnes, désormais, sont en contact direct dans un dispositif planétaire qui est totalement reconfiguré. Cela pour vous dire quoi? Qu'avant de faire de recherche ailleurs, aujourd'hui, il faut se poser la question de pourquoi vous allez faire de recherche, quelle est votre finalité, et comment vous y prenez. Pour ne pas réduire, si vous voulez, la production de la science exclusivement un instrument d'une carrière académique, par exemple. Ce serait vraiment un peu réducteur, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un premier constat. Un autre constat issu de cette première problématique est que, naturellement, quand vous allez sur le terrain, là je serai très bref, vous êtes un occidental scientifique de surcroît, qui débarque dans une société où personne ne vous a demandé de venir pour étudier les autochtones et les locaux. Eh bien, je vous assure que cette manière de faire aujourd'hui n'est plus opérationnelle dans le monde dans lequel nous vivons. Dans le sens que débarquer avec la croyance que votre statut de chercheur et votre objectivité méthodologique vous donne le droit de vous installer n'importe où et de poser des questions à n'importe qui, n'importe quand, je crois qu'il faut faire vraiment marche en arrière et vous dire aussi que le travail de terrain, d'où tout à l'heure l'idée de la difficulté, mais je vois qu'il y a aussi Motte qui rentre d'un terrain exotique, probablement aussi difficile, très beau, difficile. Mais ce que je voulais dire, que là autour, si vous voulez, l'enjeu est vraiment comment se situer dans un contexte en plein bouleversement et surtout comment se situer par rapport à des sociétés qui ont désormais une idée très claire de qui sont les anthropologues, de qu'est-ce qu'ils viennent faire chez eux, de qu'est-ce qu'on peut produire potentiellement et de qu'est-ce qu'on en fait de cette production-là. Donc sachez que l'innocence des travaux monographiques et la présomption aussi des travaux monographiques est terminée. Donc cela veut dire vraiment réfléchir sur qui on est, comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on fait dans un endroit spécifique. Et une première chose à ne pas oublier dans ce contexte, là je renvoie à l'histoire et je vous donne un seul exemple, c'est que la matrice historique des interactions entre Occident et société amérindienne n'est pas forcément des plus paisibles ni des plus réussites. Je vous rappelle que ce que certains appellent la conquête, d'autres appellent l'invasion, etc., a été caractérisé par des événements historiques tout à fait impressionnants, une conviction tragique d'un caractère inévitable de ce qui était en train de se passer. Et cette conviction tragique du caractère inévitable, peut-être je vous la transmets exclusivement avec des données établies par les historiens. Au sein de l'Empire aztèque, on est à cheval entre 1519 et 1521, donc dès l'arrivée des Espagnols jusqu'à la conquête de Tenochtitlan, l'Empire aztèque comprenait 17 millions de personnes. 55 ans après, il n'y en avait qu'un million et demi. Au Pérou, conquête en 1532, encore plus brutale parce qu'elle a pu profiter, si vous voulez, de l'expérience militaire et administrative et logistique de ce qui s'est passé au Mexique. 10 millions de personnes en 1532, 800 000 40 ans après. Ça veut dire quoi? Que le premier choc, véritablement, un vrai choc de civilisation, est d'ordre démographique. Et que ce choc démographique, si vous voulez, a formaté l'imaginaire et les représentations que les sociétés amérindiennes se font des Blancs. Cela pour vous dire quoi? Que quand vous allez sur le terrain, par exemple, aujourd'hui, vous devez régler les histoires aussi avec l'histoire, avec un grand H de l'Occident, bien que vous n'en pouvez strictement rien. Mais vous voyez aussi le type d'exercice qu'il y a derrière et ce que cela évidemment implique. Ça, c'est un premier constat. Un deuxième constat, si vous voulez, lié toujours aux problématiques de l'histoire, c'est que non seulement vous devez régler les comptes avec l'histoire, mais vous devez régler les comptes aussi avec vos collègues qui vous ont précédé sur le terrain. Et ça, je vous assure, c'est toute une histoire. Pourquoi? Parce que naturellement, l'image que ces autochtones se forgent de vous, en tant qu'anthropologue, en tant que scientifique, dépend beaucoup des gens qui vous ont précédé. Là aussi, aucune emprise pour pouvoir déterminer qui a fait quoi, mais vous en subissez les conséquences. Ces deux exemples pour vous dire que quand on parle de réflexivité, on ne parle pas forcément de choses vides ni folkloriques, mais on parle de choses substantielles, relativement importantes, qui devraient, si vous voulez, vous donner l'idée aussi de la complexité du travail qu'on fait sur le terrain. En ce qui me concerne, par exemple, on a parlé, j'étais 2 ans avec les Huichol, j'ai beaucoup voyagé aussi dans d'autres communautés amérindiennes, mais la chose la plus difficile, c'était obtenir en quelque sorte le feu vert. Après 6 mois de séjour chez eux, où j'ai strictement pu rien faire, pas en question, pas de contact avec les femmes, travail, mange, tais-toi, etc. dans un coin, c'est juste au moment où j'ai pris conscience que j'étais un individu en interaction avec une communauté qui décidait de manière collective ce que je pouvais faire ou pas faire, qu'il y a eu le déclic, que j'ai pu entrer, qu'on m'a ouvert les portes et que j'ai pu réfléchir, écrire ce que j'ai produit et que je vais vous synthétiser maintenant de manière très rapide. Aujourd'hui, nous en sommes où avec les sociétés amérindiennes en Amérique latine? Nous en sommes, si vous voulez, à un constat relativement impressionnant, c'est que cette fameuse chute démographique due à la conquête a été amplement rétablie. Les Amérindiens sont présents par millions au sein de chaque État-nation en Amérique latine. Dans certains pays, ils représentent la plus grande partie de la population. Et je voudrais dire que pour la première fois après 500 ans, ils sont devenus véritablement les acteurs de leur propre histoire, sans plus subir, si vous voulez, l'emprise de la logistique occidentale et métisse qui les a gouvernés pendant les 5 derniers siècles. L'exemple le plus évident, c'est l'arrivée au pouvoir de Evo Morales en Bolivie. C'est un Amérindien, premier Amérindien à être chef d'État d'une nation latino-américaine, avec tout ce que cela implique. Alors, en partant, si vous voulez, de ce constat, et ayez déjà en tête l'idée du renouveau amérindien, je vous propose maintenant de nous balader au sein de la culture des Huichol. Donc on est dans la Sierra Madre occidentale mexicaine, une région brute, sauvage, aride, où c'est très difficile de vivre. C'est une région qui n'était pas du tout la région d'habitation de Huichol à l'arrivée des Espagnols, mais c'est justement une région refuge. La conquête espagnole a repoussé de plus en plus cette culture nomade amérindienne qui se baladait entre les déserts septentrionaux du Mexique et les côtes du Pacifique. Donc la conquête espagnole a obligé ces Amérindiens à se retrancher de plus en plus dans les contreforts de la Sierra Madre occidentale où ils vivent encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces cultures et comment essayer d'appréhender ce qui est le chamanisme? Mais, tout d'abord, je crois que pour des historiens, cela est essentiel, n'oublions pas que ces cultures-là, jusqu'à aujourd'hui, parce que les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, sont des cultures de l'oral. Ça veut dire quoi? Ce sont des cultures qui n'ont pas de texte, qui n'ont pas d'écriture. Donc, ce sont des cultures qui, forcément, n'ont pas de perspective historique, qui manque la textualité. Et ce sont donc des cultures, si vous voulez, qui s'organisent, d'un point de vue sens culturel et pratique sociale, sur la transmission du savoir oral de génération en génération. Et nous verrons tout à l'heure que la transmission de ce savoir implique une règle très importante, pas de connaissance sans expérience. Donc ça, c'est une des dictons majeurs des cultures de l'oral, où si on n'expérimente pas en première personne, on ne peut pas appréhender. Et donc, les modalités qui vous permettent d'apprendre en savoir passent par qui vous êtes et ce que vous faites, forcément. Donc, on s'éloigne radicalement, si vous voulez, des modalités d'apprentissage qui sont les nôtres dans un cadre universitaire, tel que nous sommes en train de le faire maintenant. Un deuxième point qui me semble important, et c'est juste pour envoyer un fort écart en termes de représentation, c'est le rapport au temps. Donc vous savez que nous vivons dans une société où le temps est linéaire, le temps a été influencé par nos référentiels judéo-chrétiennes. On part de l'âge de Christ, on arrive au jour dernier, au jugement dernier, c'est la via recta de l'histoire, hein, et nous sommes inscrits, si vous voulez, dans cette perception temporelle qui nous permet de nous éloigner progressivement d'une origine pour avoir l'ambition, au fond, de construire à travers les caractéristiques de notre société le futur, et on regarde toujours de l'avant. Dans les cultures de l'oral, la représentation du temps change, parce que là, elle est fondamentalement cyclique. Ça veut dire quoi? Ce sont des cultures qui collent sur le rythme cosmologique. Et donc, par exemple, l'alternance jour et nuit est essentielle, et surtout l'alternance des saisons est essentielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la représentation du temps cyclique conçoit aussi la présence des sociétés humaines comme la reproduction d'une sorte de vérité ultime qu'on ne trouve pas forcément dans le futur, mais exactement à l'antithèse, c'est-à-dire dans le passé. Ce sont des cultures, si vous voulez, qui conçoivent qu'au temps des origines est contenue la véritable vérité, et qu'une des tâches de communauté humaine est, par le biais de la répétition incessante de ce que les ancêtres ont fait, hein, de reproduire ce temps dans le présent pour ne pas s'éloigner du droit chemin, en quelque sorte. Donc, pourquoi parler de l'oralité de ces cultures importantes? Eh bien, parce que ce sont des cultures qui regardent en arrière, ne regardent pas en avant. Et là, l'écart par rapport à notre propre société occidentale me semble aussi assez évident. Une deuxième problématique, donc, sont des cultures du corps. Les cultures orales font aussi que c'est exclusivement à travers l'expérience, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on peut appréhender une connaissance. Et cette phrase de Pierre Bourdieu peut-être résume de manière synthétique mais très claire les propos que je veux évoquer avec vous. Ce qui est appris par le corps n'est pas quelque chose que l'on a, comme un savoir que l'on peut tenir devant soi, mais toujours quelque chose que l'on est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cultures, il y a aussi des dispositifs sociétaux légitimés par les référentiels culturels qui pousse les individus à vivre dans une perspective très spécifique pour apprendre, pour connaître, hein, et donc pour pouvoir fonctionner dans le monde et interagir avec le monde. Mais vous l'auriez compris, dans ces cultures-là, le rapport au corps devient essentiel. Vous verrez tout à l'heure que ce rapport au corps va déterminer effectivement aussi qu'est-ce qui est le chamanisme ou qu'est-ce qui est la quête du sens propre aux cultures chamaniques. Une autre prérogative, me semble-t-il, est celle que sont des cultures de la terre, à savoir que le rapport entre nature et culture ne sont pas pensés en termes de rupture mais de continuité, et surtout que la séparation entre les êtres humains et les expressions naturelles est floue, voire ignorée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous avons vraiment l'obligation de nous décentrer. Et je vous donne un exemple peut-être comme ça, un peu direct. Mais pour ces cultures, tout ce qui relève de l'expression émotionnelle ou de la pensée est très important. Parce que, au contraire de ce que nous pensons en Occident, à savoir que tout ce qui est lié à l'émotion et à la pensée, au mental, reste circonscrit dans la conférence de notre propre corps et appartiennent exclusivement à un potentiel d'expression éminemment singulière et subjectif, totalement imperméable avec l'extérieur, nous fonctionnons comme ça en Occident, et bien dans ces cultures, tout ce que vous exprimez à travers les émotions et les pensées déborde la frontière corporelle pour investir la nature ou la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que vous créez à l'intérieur de vous-même a des répercussions dans le contexte dans lequel vous évoluez. Et que quand on parle, je crois, de perméabilité ou de barrière floue entre les choses, nous nous rendons compte que nous sommes confrontés vraiment à des prérogatives culturelles qui s'éloignent de beaucoup de ce que nous concevons en Occident. À savoir que chaque être humain, au fond, est totalement imperméable à ce qui se passe à l'extérieur, en gros, hein, et que le vécu émotionnel et mental ne relève que de l'expression de sa subjectivité. Dans ces cultures, on porte une grande attention à tout ce qu'on peut produire en termes, par exemple, d'émotions. Pour tout vous dire, si vous haïssez quelqu'un et vous le pensez très intensément, hein, pour ces gens-là, cette haine qui couve en vous sort de vous, hein, et forcément, elle va se déposer quelque part. Donc vous voyez aussi comment ils réfléchissent et comment ils se positionnent par rapport à qui ils sont et par rapport à la nature. Ils sont aussi des cultures du partage. Donc j'insiste aussi pour vous montrer l'écart par rapport à nos propres sociétés, notamment sociétés occidentales. Pourquoi sont des cultures du partage? Déjà parce que les racines amérindiennes ne peuvent pas se concevoir sans la terre, et selon leur perception, la terre est un bien commun. Ils développent donc une attitude humaine vers le commun, c'est-à-dire la communauté. Vous savez comment on définit une communauté dans une perspective amérindienne? C'est le lien entre une collectivité humaine et une région géographique, une partie de terre bien particulière. C'est ça la communauté. Tandis que nous, en Occident, par exemple, chaque fois qu'on définit la communauté, on ne fait que se référer à des collectivités humaines, n'est-ce pas? Là, la définition de cette notion, et donc l'opérationnalité de cette notion, dépend d'un nexus qui inscrit l'être humain vraiment dans un territoire. Et que sans ce rapport-là, la communauté n'existe pas. En partant de cette définition, naturellement, sont des cultures communistes, non, socialistes, non, sont des cultures du partage. Mais ça a été évoqué tout à l'heure, hein, qui fonctionnent vraiment sur des registres de symétrie et de réciprocité relativement époustouflantes. Je vous rappelle aussi que ce sont des micro-communautés, en quelque sorte, hein, mais qui ont beaucoup à prendre, si vous voulez, notamment la notion de propriété en Occident. Et je terminerai avec une dernière définition. Ce sont aussi des cultures païennes, ne l'oublions pas. Donc ce sont des cultures polythéistes, ce sont des cultures qui s'éloignent radicalement de toute la culture judéo-chrétienne dans laquelle nous baignons depuis notre plus tendre enfance. Quelle est la particularité, si vous voulez, de ces cultures païennes? Bon, on pourrait là vraiment se développer la chose pendant longtemps, mais de manière très synthétique, si vous voulez, c'est une culture qui n'est pas anthropocentrique. À savoir, elle n'a pas développé ce qui est une des immenses caractéristiques de la civilisation occidentale à partir de la Renaissance, à savoir que nous avons mis l'être humain au centre de toute chose. Enfin, une vision anthropocentrique, c'est que nous nous positionnons au centre et tout le reste, au fond, ne dépend que de nous. C'est grâce à cette posture créée par la Renaissance, par la révolution des mentalités de la Renaissance, que nous avons créé l'humanisme, hein, que chacun d'entre nous défend, où nous mettons l'humain au centre de toute problématique. Dans ces cultures polythéistes, nous sommes confrontés, si vous voulez, à une manière d'appréhender le statut de l'être humain qui est fort différente. Parce que l'être humain, à l'instar d'autres expressions du règne minéral, végétal et animal, est une parmi les expressions de la terre. Donc, pourquoi insister là-dessus? Eh bien, parce qu'en partant de cette posture, évidemment, l'être humain n'est pas au centre de toute chose, mais ce qu'on place au centre de toute chose, c'est la terre-mère. C'est celle qui exprime une multiplicité de formes de vie à différents registres. Et la particularité, si vous voulez, des cultures païennes, voire du polythéisme, est qu'une médiation, pour ne pas dire une communication, est possible entre toutes les expressions relevant de la mère-terre. Nous sommes tous les enfants de la même matrice, en quelque sorte, et nous avons quelque chose à partager. Et le chamanisme, donc, travaille beaucoup aussi dans cette perspective, à savoir dialoguer avec le monde d'autre, dialoguer avec les esprits, les ancêtres, dialoguer avec les puissances de la nature, dialoguer avec la puissance du règne animal, dialoguer avec la puissance du règne minéral. Et si vous réfléchissez ça par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir des cultures qui se retournent en arrière, nous avons tous la même origine, c'est une évidence. Et cette même origine, si vous voulez, doit garantir des relations basées sur le respect réciproque entre les différentes expressions de la nature. Donc ça sont quelques référentiels pour vous dire quoi? Que quand on parle de culture chamanique, vous l'aurez compris, on parle effectivement d'un système culturel fort complexe, et j'insiste là-dessus, qui s'éloigne de manière radicale de ce que nous avons construit à travers l'histoire occidentale dans le cadre de nos sociétés. Et que naturellement, vous le verrez tout à l'heure, à chaque fois qu'on transborde des pratiques chamaniques d'un contexte à l'autre, on transborde que des pratiques, on ne transborde pas l'habitus, pour reprendre une expression chère à Pierre Bourdieu, donc le contexte dans lequel nous évoluons. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous voulez, que le chamanisme est une culture du corps, que toute connaissance passe par l'expérience corporelle. Moi, je me suis intéressé plus particulièrement, si vous voulez, au fait suivant, que l'anthropologie avait bien montré la cohérence du discours et des référentiels mythologiques, des croyances, voire du domaine du sacré, dans cette culture. Mais l'anthropologie n'avait jamais développé l'impact pragmatique de ce type de pensée. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans mes études, et notamment dans mon interaction avec ces cultures-là, c'était pas de redonner exclusivement une cohérence discursive aux structures symboliques de l'imaginaire, par exemple. Qu'est-ce que c'est un mythe, comment les mythes dialoguent entre eux, la cohérence d'une pensée. C'est un travail qui était déjà fait, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéressait, c'est et qu'est-ce que cela signifie en termes d'expérience? Est-ce qu'on peut dire véritablement que des structures symboliques conditionnent le vécu corporel? Et si cela c'est le cas, comment ce vécu corporel développe des connaissances spécifiques de soi et du monde? Donc c'était un peu l'axe, si vous voulez, autour duquel j'ai travaillé. Là, je vous restitue brièvement deux ou trois idées. Donc, vous l'avez bien compris, l'intérêt naturellement portait, oui, quelle interaction avec quel type de divinité, dans quel endroit, par rapport à quel mythe. Mais ce qui m'intéressait, c'était de mettre en relation ce type de lien avec des expériences corporelles. Parce que l'ensemble de la communauté, dans ce contexte, partage un savoir. À savoir que les pratiques du corps permettent l'accessibilité à la connaissance chamanique, en quelque sorte. Et ces pratiques du corps répondent à une règle: allez au fond de qui vous êtes, poussez les limites de qui vous êtes pour apprendre au mieux comment vous fonctionnez. Et plus vous allez loin, plus vous êtes, si vous voulez, sur la voie d'un apprentissage d'ordre chamanique. Donc plus vous êtes sur une voie qu'on pourrait qualifier, selon le langage occidental, comme initiatique. Et quelles sont ces pratiques, donc éparpillées, si vous voulez, sur plusieurs rituels, donc là je n'entre pas forcément en détail parce que le temps passe vite, mais ce sont des pratiques qui ont affaire à voir vraiment avec l'utilisation du corps et l'utilisation de l'être humain qui l'habite en quelque sorte. Parce que par exemple les marches, vous avez déjà marché 7 heures par jour, des semaines de suite, des mois de suite, d'avoir l'effet que ça fait. Au-delà, si vous voulez, de vous recentrer en termes de forme corporelle, il y a tout un travail sur le mental qui est relativement impressionnant. Et la marche, naturellement, vous donne des attitudes de résistance et de concentration implacables. Hein. Donc, deux connotations de l'expérience humaine que ces cultures travaillent de manière très importante. Il y a aussi l'éveil. Nombreuses fois, par exemple, j'ai vu des gens qui marchaient toute la journée, qui passaient toute la nuit à chanter, à invoquer des divinités, à faire des rituels, et le matin à l'aube, hop, on repart comme si de rien n'était. Ça veut dire vraiment qu'on travaille sur le pouvoir de concentration et de résistance psychophysique, entre guillemets, de manière fort importante. Et vous voyez donc qu'on va vraiment à la recherche de ses propres limites, à la recherche de ce qu'on peut exprimer. Les jeûnes, c'était exactement la même chose, des jeûnes cadencés, rythmés, en fonction des divinités, en fonction du type de rituel. Mais là aussi, vous le savez mieux que moi, qui ne mange pas le premier jour va mal, expulse toutes les toxines, parce que l'activité métabolique ne se concentre plus sur la digestion, mais sur la purification du corps. Donc c'est un véritable rituel de purification qui est une empreinte du corps. Et deuxièmement, une fois expulsé toutes les toxines, vous avez la possibilité de renouveler votre énergie corporelle, je mets énergie naturellement avec 4 guillemets, et vous vous trouvez dans une forme époustouflante. Eh bien, ces transmutations du corps dues au jeûne, si vous voulez, sont dans l'optique autochtone endogène, des expériences à vivre et censées alimenter aussi leur manière de faire et de voir les choses. Eh bien, évidemment, j'en termine peut-être avec les rêves, hein, ce qui m'intéresse. C'est que le rêve, par exemple, et tous les effets psychédéliques dus à l'absorption de psychotropes appartiennent exactement à la même logique. Ce sont des cultures donc qui déroutent totalement les classifications, les typologies propres à la psychologie, parce que tout ce que le corps exprime, émotion, pensée, rêve ou hallucination, hein, est mis sur le même plan, n'est pas du tout séparé. Donc vous voyez aussi que là, on est confronté à quelque chose de relativement épatant. Alors, une des pratiques telles que ça a été évoqué tout à l'heure, vraiment importante dans ces cultures, c'est l'absorption de psychotropes. Je vous la balance parce que, bon, à l'évidence, c'est une expérience corporelle conséquente, mais c'est une expérience corporelle, si vous voulez, qui est l'aboutissement aussi d'un chemin et d'un ensemble de pratiques corporelles qui font aussi que l'individu, au moment où il est dans la gestion optimale de qui il est, des limites de ce qu'il peut faire, il déborde encore plus largement ses limites grâce à l'utilisation de psychotropes pour aller vraiment au cœur de la connaissance. L'utilisation de psychotropes est considérée l'apogée du sacré, en quelque sorte, et le moment idéal pour appréhender le véritable sens de la vie et la véritable intelligence de la nature. Donc c'est par l'expérience psychotropique, en quelque sorte, qu'on devient docteur honorum causa au sein de ces sociétés-là. Alors, tout cela pour vous dire quoi? Vous l'aurez compris que nous sommes confrontés vraiment à des sociétés relativement différentes de la nôtre. Deuxième partie, si vous voulez, très brièvement, nous vivons aujourd'hui un processus de mondialisation qui s'accélère de manière impressionnante, vous le savez, et ce processus de mondialisation, au moins en anthropologie, on le définit comme une nouvelle règle pour appréhender les réalités locales. À savoir qu'on ne peut plus comprendre une réalité locale qu'à la lumière de transformations d'ordre global. Hein, donc il y a un jeu, si vous voulez, de va-et-vient entre des enjeux globaux et des situations spécifiques. Or, dans ce contexte de mondialisation, évidemment, aussi les sociétés amérindiennes sont concernées. Et comme je le disais auparavant, les sociétés amérindiennes sont exposées au regard du monde par les logiques propres à la mondialisation, et en même temps sont obligés de se rapporter, si vous voulez, au monde extérieur. Donc ce qui est en train de se passer au cours de ces années-ci, c'est qu'on assiste probablement aussi à une grande tragédie, hein, mais à des sociétés orales, référentielles, mythologiques, qui se voient dans l'obligation d'entrer désormais dans l'histoire, notre histoire occidentale, hein, et universelle, j'oserais dire, à travers des instruments qu'ils doivent forcément acquérir parce qu'ils ne les ont pas encore. Donc c'est une véritable phase, si vous voulez, de transition. Et cette transition se fait à travers différentes problématiques. Je vous en évoque peut-être quelques-unes. Première grande problématique, qui est aussi un facteur constitutif de la mondialisation contemporaine, est celle qui concerne les migrations. Il n'y a pas une seule société ou communauté amérindienne aujourd'hui qui ne veut pas sous l'effet de migration, migration volontaire à la recherche du travail ailleurs. Et dans ce sens, si vous voulez, la tragédie des sociétés amérindiennes, c'est que naturellement elles sont récupérées dans des catégories de lumpen prolétariat, dans les grandes banlieues des mégalopoles d'Amérique latine, en quelque sorte. Et puis aussi des migrations forcées, ne l'oublions pas, parce que pas mal de conflits à caractère bas seuil, mais qui concernent plusieurs pays d'Amérique latine, les obligent aussi à se déplacer ou à l'intérieur du pays ou entre pays. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est que le rapport au territoire change complètement, bien évidemment. C'est que la confrontation avec l'extérieur amène des nouveautés à l'intérieur des communautés. Et que naturellement, nous voyons surgir progressivement des identités hybrides qui essayent de concilier l'inconciliable en quelque sorte, mais des référentiels à caractère, au sens très large du terme, occidental, et des référentiels à caractère plus particulièrement autochtone. Un autre exemple qui me semble important, et qui a à faire notamment avec ce secteur, soit les religions et la mondialisation, c'est qu'ils vivent justement la globalisation d'un prosélytisme religieux qui est caractérisé essentiellement par tous les mouvements évangéliques, pentecôtistes et baptistes de l'Amérique septentrionale, plus particulièrement des États-Unis, qui envahissent avec une stratégie vraiment méthodique l'ensemble d'Amérique latine et plus particulièrement les communautés amérindiennes. Ça veut dire quoi? Que dans pas mal de communautés que je connais depuis les années 80, qui étaient vraiment à caractère polythéiste, communautaire et solidaire, maintenant l'arrivée de ces réseaux de filiation religieuse particulière ont cassé les communautés, parce que naturellement il y a des conflits d'intérêts entre les différentes factions protestantes, parce que naturellement chacune investit avec de l'argent de projets spécifiques, parce que naturellement désormais les alliances qui comptent sont avec la provenance des gens qui débarquent de l'étranger avec l'argent et les projets, et sont plus des questions de cohésion communautaire. Donc vous voyez que là la problématique du pluralisme religieux, tel que peut-être nous pouvons la vivre aussi en Occident, se vit aussi au sein de ces communautés amérindiennes qui ont déjà été confrontées lourdement à l'emprise de l'institution de l'Église catholique pendant des siècles et qui aujourd'hui doivent faire les comptes, si vous voulez, avec ces nouvelles formes de prosélytisme judéo-chrétienne qui est en symbiose avec le marché d'une économie libérale, soyons clairs, parce que tout passe là autour. Une autre problématique est celle du tourisme. Grand débat, désormais c'est tellement en vogue, à la mode d'aller visiter ces cultures, il y a une circulation impressionnante de personnes. Sachez tout simplement que bon, ils ont pigé le problème, ils sont en train de s'organiser, et dans certaines régions amérindiennes d'Amérique latine, si je pense à une parmi les plus belles, celle des Cunaya, un territoire de Panama, sur la mer du Caribe, à côté de la forêt du Darien, où les Cunas, des vraies amérindiennes chamaniques, j'oserais dire, parce que sont plein là-dedans, ils sont devenus des managers de leur propre tourisme. Donc dans chaque village, désormais, ils s'organisent, ils ont compris le flux, l'argent, l'offre, la demande, etc. Donc ils renouvellent aussi leur manière de faire pour accueillir des gens qui viennent de l'étranger, naturellement de manière sélectionnée. Cette histoire du tourisme est tout à fait passionnante parce qu'elle permet aussi de comprendre l'irréversibilité de certains phénomènes, de certains liens, notamment avec l'Occident. Et puis naturellement, peut-être ne l'oubliez pas, mais les choses ont radicalement changé depuis le 1er janvier 1994. Tout le monde ici, j'imagine, connaît le subcommandant de Marcos et le mouvement zapatiste au sud du Mexique. Au-delà, si vous voulez, d'être un épisode historique circonstancié et ponctuel concernant le groupe culturel des Mayas, Tzotzil et Tzetzal, Quiché, du sud du Mexique et du nord du Guatemala, si vous voulez, la prise de Marco a été le déclencheur d'un véritable renouvellement de la dignité amérindienne en Amérique latine. Parce que tout d'un coup, si vous voulez, ce que Marcos a déclenché du sud de la Terre du Feu jusqu'aux Inuits du Labrador canadien, c'est la prise de conscience historique de ce que toutes ces sociétés ont parcouru comme trajectoire, et surtout le fait que désormais ils ont envie de devenir les acteurs de leur propre histoire, et qu'ils en ont vraiment, ils sont saturés, si vous voulez, de se voir faire imposer des dictats par l'extérieur. Pourquoi je vous rappelle Marcos ? Parce que Marcos a contribué, si vous voulez, à créer vraiment des nouveaux référentiels amérindiennes, peut-être retranscrit par cette phrase, nous les indigènes ne faisons pas partie du passé mais du futur, quand on regarde vers l'arrière mais on rêve vers l'avant, nos pieds demeurent dans la glaise de l'histoire mais notre tête aperçoit de lumineux lendemain. Enfin, prise de conscience de l'instrumentalisation aussi de ces cultures dans l'histoire et d'une envie de revendication et de quête d'une nouvelle dignité de type culturel. Donc ce mouvement-là a causé quoi ? A causé, si vous voulez, une des grandes particularités des sociétés amérindiennes d'aujourd'hui, que sûrement certaines d'entre vous connaissent. Il a renouvelé la dignité de toutes les sociétés au niveau local. Être amérindienne aujourd'hui n'est plus une honte, mais c'est presque une fierté. Et tout cela en 20 ans. Il y a 20 ans, si vous voulez, être indios était terriblement dépréciative. Aujourd'hui, devient instrument de fierté personnelle et collective. Deuxièmement, pour la première fois dans l'histoire, on a vu la création de réseaux politiques et d'intérêts politiques amérindiennes qui vont du sud au nord des continents américains. Et c'est pas rien, ça veut dire qu'il y a des organisations derrière qui travaillent, qui planifient, qui coordonnent une activité transcontinentale. Et surtout, certains d'entre vous le savent sûrement, ce monde pan-indien, en quelque sorte, est entré en connexion de plus en plus structurée avec les enjeux de l'intermondialisme qu'on connaît si bien. Et donc, tout d'un coup, voilà, ils sont projetés aussi comme acteurs politiques au niveau de l'histoire. Tout cela, naturellement, est dû à déclencher plusieurs problématiques tout à fait intéressantes. La première, c'est que désormais, il y a des liens directs entre sociétés chamaniques, notamment amérindiennes, et forums internationaux. Je pense notamment au forum de l'ONU, à la question des droits des populations autochtones. Il est pas rare, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de rencontrer notamment des Wichol à Genève, un habit traditionnel qui se balade parce qu'ils vont à des assemblées au sein des Nations Unies pour parler de leurs problématiques, pour revendiquer, pour critiquer. Donc il y a des lieux, dispositifs qui reconnaissent la demande des Amérindiens, et ce lien permet pour la première fois aux Amérindiens de dépasser ou de contourner l'État-nation avec lequel ils ont eu toujours des problèmes insurmontables. Donc, si vous voulez, il y a de nouveaux réseaux de collaboration et de réactualisation et réconfiguration de ces sociétés amérindiennes qui dépassent largement l'héritage historique, mais qui répondent vraiment aux besoins aux besoins contemporains. Et je vous montre juste cet emblème pour vous dire que voilà, il s'organise aussi un centre de récolte autour des banques de données. Par exemple, le SAIC est un centre de documentation sur la violation des droits humains au sein des communautés indigènes et chamaniques d'Amérique latine, qui est relativement impressionnante et qui emploie, merci beaucoup, et qui emploie relativement importante. Je voulais terminer cette partie avant de aborder la dernière. En vous rappelant aussi que les Amérindiens deviennent véritablement acteurs de leur propre histoire, mais vous savez qu'on a profité, j'oserais dire à juste titre, de pas mal de documentaires établis par des metteurs en scène américains, européens, par pas mal de documentaires de type ethnographique, qui nous parlaient toujours de l'autre, en quelque sorte. Aujourd'hui, une des grandes caractéristiques qui exprime le renouveau qu'on vient d'évoquer, et qu'en Amérique latine, si vous voulez, on commence à produire de la filmographie et des documentaires en partant de la posture amérindienne. Donc ce sont eux-mêmes qui commencent à produire de la science-fiction ou de documentaires avec une carte éthique relativement importante là-derrière. Bref, c'est quelques exemples pour vous dire quoi ? Pour vous dire, si vous voulez, que la mondialisation change ces sociétés. Et que naturellement, tout ce qu'on va voir maintenant, comment la prérogative de ces sociétés liées au chamanisme est en train de circuler en Occident, doit être inscrite, si vous voulez, dans ces transformations d'ordre très très global. Alors, quand on parle de chamanisme, il ne faut pas confondre, comme ça a été évoqué tout à l'heure, chamanisme et néo-chamanisme. Il y a une confusion de sens et de référence, effectivement, mais je dirais de manière forte schématique qu'il y a une distinction entre les deux parties. Tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est une approche scientifique d'ancienne mythologie, vous l'aurez compris. Avec le néo-chamanisme, nous sommes confrontés à la création de nouvelles mythologies dans notre société occidentale. Et plus particulièrement, si vous voulez, tout ce qui a fait à voir avec le néo-chamanisme, c'est l'exportation de pratiques rituelles qu'on peut répertorier d'un point de vue ethnographique dans ces sociétés, hein, mais qui sont importées de manière totalement décontextualisée. Et parmi ces pratiques, une qui a sûrement le plus grand succès est celle de l'absorption de psychotropes. Je ne vous parle pas forcément d'épisodes très ponctuels, mais d'un marché aussi qui s'est instauré. Pas plus tard que le mois de juin, il y aura, je crois, la troisième rencontre ici dans le Jura avec des chamans de la communauté Huichol qui débarquent avec leurs substances psychotropes à proposer justement des rituels autochtones à des banquiers, à des étudiants stressés, pour leur permettre de reconquérir le sens de l'existence. Mais cela en fin de semaine qui coûte naturellement tac. Cela pour vous dire quoi ? Qu'on assiste donc à la globalisation de ces pratiques. Hein. Mais la globalisation de ces pratiques, si vous voulez, doit être vraiment perçue aussi comme un mouvement historique. D'une part, bien évidemment, l'origine de tout cela est à voir avec les mouvements et l'émergence de la contre-culture aux États-Unis, avec le contexte plus particulièrement du New Age, où les mouvements Quakers, les anarchistes, les memnoniques, la non-violence, les doctrines rattachées à la tradition mystique des grandes religions monothéistes, le bouddhisme zen, l'hindouisme, les traditions pré-chrétiennes, l'ésotérisme, l'occultisme, hein, entrent en relation avec le chamanisme. Pour vous dire quoi, que le chamanisme, si vous voulez, n'est pas récupéré en tant que tel, mais fait partie vraiment d'une vogue culturelle qui a récupéré un peu tous les savoirs au niveau de la planète. Et que naturellement, la récupération de ce savoir, comme ça a été évoqué tout à l'heure, répond plus à un besoin que nous avons en Occident qu'un réel besoin d'interagir ou de connaître les autres cultures. En tel point, si vous voulez, que de manière très formelle, on pourrait dire que le néo-chamanisme est une anthropologie résiduelle relativement importante parce qu'elle réduit l'humanité en question d'options, en quelque sorte, une humanité à la carte disponible au stand des techniques. Quelle est la manière la plus simple, et je conclue là, de vous illustrer cette récupération boulimique et autoréférentielle propre à l'Occident? C'est que tout le langage propre au rituel néo-chamanique correspond en gros à un langage fortement psychologisant qui est propre en Occident, qu'on trouve dans pas mal de secteurs, et qui se réfère plus particulièrement, si vous voulez, au courant important de ce que nous appelons en Occident le développement personnel. Ça veut dire quoi ? Nous sommes dans une société, vous le savez, qui modifie sensiblement les valeurs de référence, qui cimente le social. Nous passons de sociétés caractérisées par la culpabilité, la soumission à l'autorité, à des sociétés où chacun de nous devient responsable de lui-même, chacun de nous devient autonome, chacun de nous prône l'initiative personnelle. Donc nous sommes dans des sociétés à caractère fortement individualiste. Toute l'idée des courants du développement personnel, si vous voulez, porte justement là-dessus, et ce titre d'un livre de Michel Lacroix, hein, « Le développement personnel du potentiel humain à la pensée positive », regroupe, certes de manière schématique, un trend totalement transversal, propre à la société occidentale, mais ce trend a récupéré aussi les logiques néo-chamaniques. Donc pourquoi on s'adonne à ces pratiques ? Pour retrouver soi-même, pour une quête de sens, bien évidemment, propre au pluralisme médical, pour potentialiser ses propres sources psychophysiques, pour penser positive en termes de vie. Mais évidemment, ce qui est dérangeant pour un anthropologue, c'est que bien que ces choses-là soient totalement passionnantes et totalement légitimes en termes d'enquête scientifique, hein, parce que je crois qu'on a aussi le devoir de comprendre pourquoi aujourd'hui les gens ont besoin de quête de sens à tout prix et pourquoi parmi les stratégies qui permettent d'atteindre ce sens, il y a aussi le recours à ces pratiques chamaniques. Je crois en même temps, si vous voulez, qu'il faut bien différencier ce qui est une expérience personnelle transmutée en savoir anthropologique et ce qui est véritablement une approche de ces cultures chamaniques. Bref, l'anthropologie, si vous voulez, l'interface entre la culture collective et communautaire des sociétés amérindiennes et la culture fortement individualisée des sociétés occidentales.
Prenez un petit avion mouche qui atterrit dans 200 mètres carrés avant un gouffre, vous prenez vos risques, ou bien vous partez à pied, vous marchez une semaine pour atteindre les villages. Donc il y a une question vraiment géographique. Quand on a construit la première route, pour tout vous dire, elle est emblématique, le premier camion qui transportait du matériel est un camion bourré de caisses de bière. Donc, vous me dites comment on interagit, ben voilà déjà un truc, la bière, l'alcool, la problématique de l'alcoolisme, que je ne vais pas évoquer ici, mais qui est centrale là. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas que les Occidentaux ne peuvent pas aller. Mais disons que les Bichols ont contrôle absolu sur tous les trafics humains dans le cadre de leur territoire. Et que généralement, si vous restez pour des périodes limitées, ce qu'on vous demande désormais, c'est de l'argent, c'est le deal habituel. Vous pouvez rester bien évidemment, il y a des gens qui séjournent longtemps, mais ça dépend, c'est une région terriblement vaste où il y a trois villages à 800 000 personnes, il y a des hameaux qui sont éparpillés partout, donc rester dans la Sierra, justement quoi. Je crois qu'aujourd'hui les villages principaux sont les lieux de contact et d'interférence entre les communautés locales et la société occidentale. Donc, vous trouvez des choses splendides comme trois pylônes de lumière sur 200 mètres un générateur qui fait un bruit d'enfer, hein, mais les Indiens qui sont heureux parce qu'ils ont la lumière. Voilà, trois petites ampoules. Vous trouvez la radio, vous trouvez des magasins, l'argent commence à circuler, les gens qui ont travaillé à l'extérieur ont gagné de l'argent, reviennent au village, se construisent des maisons, un peu style occidental, donc tout en train vraiment de se réaménager de manière continue. Donc les contacts se font, mais je dirais que le contact principal, c'est par les Amérindiens eux-mêmes, donc ceux qui s'exportent et ceux qui reviennent. Sont eux qui amènent en France ce que produit l'Occident.
Alors, peut-être encore une question. Là, nous avons vu le côté donc, des Huichal chez eux. Moi, ma question était de me demander le rituel qu'ils mettent en pratique en Amérique latine est très complexe. Et il y a des marches, il y a des jeûnes, il y a toute une série de rituels qui mène à la prise du psychotrope en tant que point culminant. Or, je me demande, dans les rituels occidentaux qui se font en une journée, deux au maximum, quels sont les rituels qui sont gardés? Parce que finalement, on ne peut pas faire une marche en un jour, on ne peut pas non plus penser à faire des veilles. Donc, pratiquement, qu'est-ce qui est gardé et je dirais presque dans quel sens? Pourquoi?
Alors, ce qu'on peut constater d'un point de vue ethnographique autour de ce rituel ici en Occident, et qui se font effectivement sur un laps de temps très court, c'est tout d'abord une tentative, mais à mon avis fictif, de travailler sur la purification de l'être humain. Que ça, c'est essentiel pour l'absorption. Or, dans ce genre de rituel, on assiste à une sorte de... Bon, ça dépend encore qui le conduit, mais généralement, on assiste à une sorte de expression devant tout le monde des choses qui n'ont pas été dignes de ce nom dans les mois qui précèdent l'absorption. Donc une sorte de confession collective, si vous me permettez l'analogie. Et puis ce qui se passe, c'est que qui conduit le rituel, c'est toujours un chaman. Les chamans respectent l'entrée progressive dans le rituel, à savoir l'appel des esprits d'ancêtres, qui à leur tour appelle des esprits un peu plus importants pour arriver aux esprits tutélaires de l'absorption. Donc cela, on le constate aussi chez nous. Et puis, il y a l'absorption. Mais ce qui est marrant, par exemple, la dernière étude que j'ai vue, il y a pratiquement très peu de monde qui parle espagnol. Le chaman ne parlait que outonaire et espagnol, donc en toute manière de communiquer. Il y avait un médiateur occidental qui faisait la transition. Et quand j'avais demandé à ce chaman, mais écoute, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire par rapport à ce qui vit là-bas? Il m'a répondu clairement, écoute, sincèrement, j'en sais rien. Par contre, ce qui m'a plu de l'histoire, c'est qu'on m'invite en Europe, je ne suis jamais sorti de la Sierra Madre, donc je viens voir un peu qu'est-ce qui se passe. Cela pour vous dire aussi, ce serait intéressant d'aller de manière un peu plus méthodique dans la représentation réciproque. Mais je crois qu'on voyage vraiment sur un registre de confusion là, symétrique, assez important.
Donc, les autres questions?
Moi, je voulais savoir la différence, la manière de vivre les trans, les occidentaux et des natifs. On ne peut pas vivre la transe de la même manière, ressentir les mêmes choses et en sortir la même expérience.
Tout à fait. Alors pour vous répondre, permettez-moi d'affirmer que je suis occidental et que pour redonner un sens à ce type d'expérience, j'ai besoin de la science. Okay? Alors, il y a effectivement, si vous voulez, des différents registres. Bien évidemment, ces sociétés sont des sociétés, d'un point de vue culturel, légitimes et poussent les acteurs sociaux à l'expérience. Hein? La valorisent en quelque sorte. Il y a des prédispositions très positives. Mais c'est une expérience qu'ils n'obligent jamais à faire. Donc ça me semble aussi intéressant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expérience? Peut-être vous l'aurez compris, mais ils savent très bien, a priori, où ils vont, ce qu'ils vont vivre, ce qu'ils vont ressentir, qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi. Hein? Parce qu'il y a vraiment des schémas culturels énormes de fonctionnement social qui vous permettent de vous canaliser là-dedans.
Si vous êtes un occidentin, sincèrement, vous n'avez pas cette possibilité a priori de décoder à l'avance l'expérience, mais la seule possibilité que vous avez, c'est de passer par l'expérience et a posteriori d'essayer de lui donner un sens par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport à vos propres références. Donc là, en termes, si vous voulez, de dispositif rituel, il y a des diversités antithétiques en termes d'entrée et de sortie quant à l'entendement de ce qu'on fait. Ça, c'est un premier niveau. Puis un deuxième niveau, cette fois un peu plus scientifique, et je ne veux pas des neurophysiologie plus particulièrement, c'est que on sait que l'effet de la substance qu'ils utilisent, parce que n'oubliez pas qu'en Amérique latine, il y a 110 produits végétaux, psychoactifs et psychotropes, qui sont utilisés dans des cadres rituels. Donc il y a une quantité immense de plantes. Et chacune des plantes a des effets botaniques et biochimiques fortement différenciés, donc incomparables les unes avec les autres. Pour ceux qui s'en connaissent un peu, pas question de comparer des champignons sacrés avec de la ayahuasca ou encore avec une peyote, par exemple. Ils sont trois effets complètement différents. Moi, je maintiens, si vous voulez, au peyote, ce qu'ils utilisent le huichol, et à son effet, la mescaline. Or, d'un point de vue scientifique, on sait que la mescaline accélère de manière fort impressionnante les connexions au niveau de l'activité nervo-cérébrale. Ou en d'autres termes, que tout l'effet psychédélique permet de mettre en relation tout ce qui relève d'un fonctionnement aigué du corps, de tout ce qui relève d'un fonctionnement acquis. Je m'excuse, je serai un peu schématique. Mais en gros, notre cerveau est séparé dans deux hémisphères, de droite et de gauche, comme vous le savez. En gros, bien gros, le droit repense, si vous voulez, à des pulsions totalement innées, à la perception des couleurs, des émotions, la question du langage, etc. Tandis que le gauche, dans le gauche, s'inscrit vraiment les normes culturelles. Hein. Je vous donne un exemple tout à fait banal. Mais, quand vous conduisez une voiture et vous arrivez devant un feu rouge, hein, le rouge, vous le percevez avec votre hémisphère droit, et avec le gauche, vous avez l'injonction culturelle qui vous dit « arrêtez-vous au feu ». Qu'est-ce qui se passe quand vous freinez la voiture? C'est qu'il y a une mise en relation au niveau neurocérébral de ces deux parties de votre cerveau. Hein. Or, si vous voulez, autour de ces substances, on a beaucoup discuté. Ce sont des substances qui intoxiquent de manière naturelle les êtres humains, ou sont des substances qu'il faut appréhender d'un point de vue culturel. Mais si vous avez la perspective neurocérébrale, donc strictement scientifique, vous vous rendez compte que les querelles qui ont accompagné l'anthropologie pendant des années, hein, naturelles ou culturelles, ben, au fond, c'est les deux. C'est phénoménologiquement parlant, c'est l'union des deux. Il y a un effet tout à fait naturel de la substance, mais qui est récupéré d'un point de vue neurocérébral par les injonctions culturelles propres en société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la substance est la même, d'un point de vue neurocérébral, vous ne vivrez jamais la même chose, parce que les connexions entre ce qui est aimé et ce qui est acquis en termes d'activité neurocérébrale ne correspondent pas du tout pour l'occidental à ce qui peut vivre en Indien et vice-versa. Par contre, il y a des effets qui sont semblables. Il y a des visions qui sont semblables, et ces visions ne sont pas forcément les petits éléphants roses qui volent partout, mais c'est, comment vous dire, une manière de décoder des images que la nature fait surgir soudainement. La meilleure manière pour vous dire qu'est-ce que c'est un effet autour de ces substances, je ne sais pas si vous avez en tête des tableaux de Dali, où au premier coup vous voyez un dessin, puis vous allez un peu plus à fond, il y a 10 000 personnages qui font ce dessin. Bon, bref, il y a un double dans ce que vous voyez. Hein. Et ben, tous les hallucinations, c'est un peu ça. Pour un occidental, beau, quoi faire, je ne sais pas, pour eux, sont des signes clairs d'un contexte qu'ils arrivent à décoder, à relier, à mettre en perspective.
Oui, avec une question qui est liée à la... L'une des problématiques importantes du cours, c'est justement sur la circulation des normes et des formes. Et ma question n'est pas directement liée à ta conférence, mais plutôt à la discussion, je pense, que tu as eue avec Aïtou. Parce que lorsque vous avez, dans votre introduction, abordé la question de la circulation, vous avez présenté la question des rapports asymétriques. Bon, je n'étais pas totalement pense que c'est en discussion avec Hervé Rossi que vous avez mis en avant cette dimension de rapport asymétrique. Est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu ce que tu entends par là dans la circulation?
Cette perspective est évidemment anthropologique. Je crois que derrière chaque pratique, nous avons la déformation professionnelle qui nous amène à la contextualiser, à la mettre en perspective. Quand je parle d'asymétrie, c'est tout simplement évoquer une logique d'anthropologie résiduelle, à savoir que face à la complexité de ce qu'une culture peut exprimer, tu ne récupères au fond que le visible, le point de l'iceberg, pour l'utiliser à tes propres finalités. Derrière tout ça, évidemment, on peut peindre le tout avec un intérêt pour les autres cultures, l'ouverture, etc. Mais je ne suis pas forcément contre ce type de mécanisme. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on évoque toujours la question du chamanisme, pourquoi on évoque toujours la volonté de devenir comme eux, pourquoi on projette sur ces cultures aussi, je vous le rappelle, les trous noirs de notre propre civilisation. Tous les rapports se construisent naturellement sur la base d'interactions que la science peut contextualiser. Vous savez que l'imaginaire occidental versus les sociétés amérindiennes concerne une mythologie qui a à faire avec les catastrophes écologiques, avec les fonds d'esprit communautaire, des choses qui sont bien réelles, mais que nous avons désormais perdu ici et que nous allons rechercher là-bas. Le fait qu'on projette idéalement la quête de ce qui nous manque, et que nous récupérons une expérience que nous ne pouvons que mettre en perspective en partant de qui nous sommes, m'amène à dire que dans le dialogue entre cultures, donc dans un dialogue basé sur la réciprocité, la reconnaissance réciproque, pardon, la réciprocité, la reconnaissance, l'ouverture à l'autre, et cela signifie en termes pédagogiques comment complexifier qui je suis, à la limite, en termes de référentiel, pour appréhender au mieux l'autre, on n'est pas du tout sur cette voie. On ne fait que gratter, que récupérer la surface, et puis on la récupère justement dans un contexte où tout est récupéré selon des logiques politiques. On a mis en Occident, on a l'immense chance, historiquement parlant, d'être dans une époque où les savoirs et les expériences des cultures plurielles dans l'histoire et dans l'espace sont là, sont accessibles en termes de savoir, en termes de confrontation, en termes d'expérience commune, etc. Mais nous les utilisons vraiment de manière unilatérale, donc en fonction de nos propres... C'est en ce sens que je parle d'asymétrie. Il n'y a pas de reconnaissance réciproque. Et je parle d'asymétrie, tu l'auras compris, en partant de posture occidentale. Je pense qu'on pourra aussi parler d'asymétrie en partant de notre propre posture.
Par rapport au yoga, ce qu'on a effectivement essayé de dire, c'est qu'en parlant, en posant à la fin de la conférence de Maya Bourguia, vous avez posé la question de savoir justement si le fait, s'il y avait un appauvrissement, elle prétendait avec plutôt cette façon de parler d'enrichissement, en fait, du fait d'avoir enrichi l'Hatha Yoga avec une posture de l'harmonie britannique. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il y avait quelque chose de plus égalitaire, en fait, qu'il y avait un enrichissement, plus que de parler d'appauvrissement d'un côté, on parlait d'enrichissement. C'était ça, en fait, le rapport que c'est maintenant.
Ok, je pense que c'est tout, c'est l'heure. Merci beaucoup, j'espère que c'était intéressant. Et complémentaire à les autres prestations aussi. Et donc, je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci.